Bien, alors en attendant de commencer, je vous rappelle brièvement l'ensemble du sujet. Vous avez dans votre dossier trois textes. Un texte du Etz Chaim, qui est inspiré du Zohar, et qui parle du Tzimtzum, qui est un des textes qui parle de ce sujet, mais c'est un des textes fondamentaux. Deuxièmement, vous avez un texte du Sefer HaBa'ir, à propos de l'expression Tohu Bohu, et troisièmement, un texte du Rav Kook dans Orot HaKodesh, et qui est intitulé Raz Ayosher Ve'Aigulim, que je vais commencer à traduire aujourd'hui. Et je vous rappelle l'ensemble du sujet. C'est le thème de nature et morale. Et je résumerai très brièvement ce que nous avons vu dans les cours précédents. C'est un problème qui se pose essentiellement à l'intérieur du monothéisme, et en particulier du monothéisme de la tradition juive hébraïque, qui est un monothéisme intégral et qui peut se formuler par la formule suivante, le plus simplement possible, c'est celui qui a créé le monde dans lequel nous sommes situés et que philosophiquement, en fin de compte, on nomme la nature, qui d'autre part révèle et communique les valeurs morales, ce dont je désignerais par le terme de morale, je dis dans les cours précédents pourquoi c'est préférable au terme de éthique. Mais en fin de compte, dans le contenu, cela renvoie au même sujet. Il y a là un dualisme et une tension de deux univers radicalement différents, le monde de la valeur et le monde de la détermination. Bien entendu, il y a entre un problème très important qui touche les deux pôles du sujet, celui de la liberté et de la responsabilité, mais ce n'est pas notre sujet essentiellement. Et comment se fait-il que dans le même univers, qui est celui de l'homme, il y ait deux univers aussi différents apparemment? D'une part, le pôle de la détermination que nous avons appelé la nature pour économiser des mots et du temps, et le pôle des valeurs que nous nommons, grosso modo, la morale. Et donc retenez que ce problème est véritablement sérieux à l'intérieur de la perspective d'une doctrine monothéiste. Ça ne signifie pas qu'il ne soit pas connu dans d'autres traditions ou dans d'autres systèmes de pensée, en particulier chez les philosophes, mais il pose moins de difficultés parce que le postulat est celui d'un dualisme de l'être qui peut mener à plus que dualisme, à la limite une pluralité des absolus, et il a moins de scandales pathétiques, si j'ose dire, que la manière dont il se pose à la conscience monothéiste. Et nous avons appris dans le premier texte, essentiellement au fond, la notion de Tzimtzum, que je vais reprendre pour la nuancer et la modifier suivant ces deux polarités de l'être du monde dans lequel nous sommes. Bien entendu, nous avons entre-temps appris énormément de vocabulaire. Vous gardez les textes, vous les approfondirez, vous avez le commentaire du Rav Ashlag sur ce premier Keta, ce premier morceau de texte. Si vous pouvez le trouver en librairie, vous achèterez son livre, qui est le Talmud Esser Sfirot, et qui me semble, je l'ai souvent répété, le système de vocabulaire le plus approprié simplement à ce que l'on pourrait définir comme étant la mentalité culturelle contemporaine. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres chitotes, d'autres lignes de lecture des textes du Zohar, mais pour aborder le Etz Chaim, qui est la principale synthèse sur le Zohar qui a été donnée par le Hari, et ses élèves surtout, eh bien, il me semble que c'est quand même le vocabulaire du Rav Ashlag qui est la porte la plus immédiate, si l'on peut dire. En particulier, je vous ai cité le Sefer HaBa'ir pour éclairer l'expression « Tohu Vabohu ». Nous allons reprendre immédiatement la définition de l'artiste. Celui qui mène au Tohu, celui qui mène au Bohu. Et nous verrons ensuite, je pense que déjà aujourd'hui on pourra aborder le texte du Rav Kook, que les kabbalistes avaient une vision très précise de ce problème, que je vous ai intitulé en vocabulaire philosophique « Nature et morale ». D'autre part, du point de vue de la méthode de travail, nous allons étudier jusqu'à midi à peu près, ensuite on aura une petite afsaka, et après vous pourrez poser toutes les questions d'élucidation que vous voudrez, comme on a peu de temps, autant que possible, dans le sujet. Alors, qu'est-ce que nous avons comme définition simple de la notion de Tzimtzum? c'est une notion indispensable pour comprendre ce qui fait problème dans la philosophie générale et dans la théologie qui se base, qui prend comme véhicule d'expression la philosophie générale et qu'on appelle la notion de création ex nihilo. Les kabbalistes ont introduit une notion préalable à la notion de création à partir du néant, c'est la notion de l'apparition du néant à partir de l'être. Le processus qui le permet s'appelle en hébreu le tzimtzum, c'est-à-dire l'être primordial, l'être premier, et l'être est premier par rapport au monde, la havaya en hébreu, vide, se vide sur un point de son être, si j'ose dire, de telle sorte de laisser place au monde. Je ne reviens pas sur les analyses précédentes, nous allons les reprendre très formellement dans la conférence de ce soir. Petite parenthèse, c'est que je suis désolé de ne pas avoir pu venir jeudi soir, et je le répéterai ce soir d'ailleurs, ça m'obligera à contracter les deux sujets en un seul, et je traiterai simultanément de la notion de création et du problème du mal ce soir, pour qu'on ait le temps demain soir de parler de la restauration des mondes, le tikkun, et enfin la préface à tout ce séminaire que nous aurons en fin de séminaire, comment définir la tradition de la Kabbalah comme fondement du judaïsme, comme religion, qui me semble un sujet important pour lui-même. Nous verrons cela donc mercredi soir, si Dieu. Bien. Et voilà donc ce qu'était, très grosso modo, je vous renvoie aux analyses précédentes, la notion de tzimtzum, et je pense qu'avec la diffusion contemporaine de ces notions, ça commence à envahir un peu le monde de la philosophie elle-même, qui en tient compte, mais jusque-là, il était évident, dans l'histoire de la tradition de la Kabbalah, que cette notion purement philosophique de création à partir du néant, qui n'est pas fausse du point de vue de l'objet de la foi, en tant qu'objet de foi, mais était, pour la pensée, absolument mystérieuse, et elle est restée dans tous les courants de théologie traditionnelle de type philosophique, un objet de foi. Et encore une fois, si j'ose dire, cela n'est pas faux, pas du tout, mais cela ne permet pas de penser les termes que la Torah elle-même, que le récit biblique lui-même emploie pour dire ce dont il parle, que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, que au commencement Dieu créa, si nous traduisons ainsi, les cieux et la terre, et qu'est-ce que cela signifie. Vous rappelez que le premier mot du texte de Ephraïm, c'était da, sache, et pour savoir, il faut évidemment comprendre, ce que ne laisse pas obtenir le discours théologique, philosophique habituel. Cette notion est donc, vous rappelez d'ailleurs que dans le texte du Ephraïm, à quel point les termes qui signifient le vide en hébreu ont été employés, je pense que vous pouvez avoir le texte sous les yeux encore aujourd'hui, cette notion implique qu'une sorte de vide d'être apparaît à l'origine, au point de départ, et du point de vue de la connaissance de ce problème, du point de vue de la pensée humaine, c'est une notion indispensable pour permettre enfin de comprendre, non plus ce que j'appellerai en hébreu « Beria Yesh Me'ayin », ce niveau-là, nous le rencontrerons aussi, mais « Beria Yesh Be'ayin », c'est-à-dire que précède à la notion de création à partir du néant, qui encore une fois pour la pensée restera absolument incompréhensible, contradiction absolue du principe d'identité, et nous n'avons pas expérience de cela, apparemment en tout cas, d'y substituer, d'y faire précéder la notion de création, mettez ça entre guillemets, néantisation, mais création du néant à partir de l'être, et dans ce vide apparu que l'hébreu des kabbalistes nommera le halal, le vide absolu, création de l'être dans le néant. Et cette création-là s'appelle d'abord émanation, en hébreu atzilut. Alors j'emploie un terme plus neutre, apparition de l'être dans ce néant. Il restera toujours un côté de néant dans cet être créé. Le né etzal, l'émané, sera toujours accompagné du nivra. Et le nivra indique ce côté du côté du néant de l'être apparu dans ce vide. Et c'est pourquoi dans l'expression du Ezraïm, vous vous rappelez, Terem, Shenetsu, Anetzalim, Venivre ou Anivraim, cela va ensemble. ça ne veut pas ici indiquer le niveau des quatre mondes, parce qu'il en manquerait deux, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, mais cela indique, et je change tout de suite de vocabulaire, ce couple que le Sefer HaBeir appelle Tohu Vavohu, et que les kabbalistes de la Chita du Zohar ont appelé Or et Keli. J'ai inversé les termes, mais je les reprends dans l'ordre du Tohu Vavohu, Keli et Or. Ça nous mène donc à préciser deux notions différentes à l'intérieur de la même, du Tzimtzum, celui qui mène à ce vide qui donnera place au Keli, et celui qui mène à l'apparition de nouveau de l'être de lumière dans ce vide obscur du Keli. Deux Tzimtzumim différents, si j'ose dire. Si c'est suffisamment clair, c'est clair. Eh bien, avant d'aborder donc cette différence des deux définitions du Tzimtzum, celle qui mène au Tohu et celle qui mène au Bohu, celle qui donne place au Keli, celle qui fait réapparaître le Or, la lumière, et je voudrais quand même, puisque je m'aperçois que je n'ai pas fait au cours précédent, vous parler du différent sens en hébreu du mot de Halal. Une question m'avait été posée, est-ce que c'est relié à l'expression biblique Halilalach? Quelqu'un m'avait posé cette question?
Oui, Myriam.
Myriam qui n'est pas là. Bon, alors vous la noterez pour le lui transmettre. Le mot de halal, vous l'avez en hébreu moderne pour dire l'atmosphère, tout ce qui concerne l'astronautique, je ne sais pas comment dire, et les satellites et tout ce qui va avec, mais ce n'est pas exactement le sens de l'hébreu biblique. Parce que dans halal, dans l'hébreu biblique, dont se servent les kovalim, signifie le vide absolu, c'est-à-dire même vide d'espace, et si j'ose dire, à la limite, vide de vide. Vide vraiment. Parce que lorsque nous employons le terme de vide, cela suggère, cela implique que c'est vide de tout sauf du vide. Mais là, le halal, c'est même vide de vide. Et vous rappelez que peut-être certains d'entre vous pourront avec beaucoup de profit se référer au traité sur le vide de Pascal, où il y a énormément de positions du problème, en tout cas sous forme des questions que ça pose. Et vous vous rappelez que je reviens en tout cas à cette question de vous vous rappelez que je vous avais signalé que ce vide ontologiquement, c'est-à-dire dans l'être, n'existe pas, ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il s'agit d'une lumière simple, et simple signifie qu'il ne supporte pas la complexité, arkava, la quantité de lumière qui est censée être retirée du centre à la périphérie de ce point de vide, à partir du point central, Nekuda Emtsarit, là j'y reviendrai, ne peut pas rester en surcroît, en surplus, en trop lumière, trop plein de lumière, à l'extérieur de la sphère de vide. Inévitablement, dans l'instant même, elle revient, betokef, c'est-à-dire avec l'impétuosité de la nécessité de l'être simple, et détruit ce vide. Il va y falloir un certain aménagement pour que les mondes soient logés quelque part, quand même. Mais il y a d'abord, logiquement, une impossibilité préalable. Ce halal ne peut pas exister, il n'existe pas. Ça veut dire, d'une certaine manière, quand vous trouvez des textes, pas seulement des kabbalistes, disant que tout se passe comme si, du point de vue de Dieu au monde, le monde n'est rien, c'est du point de vue du monde à Dieu que le monde existe, formule très proche des formules des kabbalistes, mais qui sont employées aussi par les non-kabbalistes, cela a un sens. Cela ne veut pas dire rien. Je donnerai un exemple en passant. Nous avons expérience de cela. Les kabbalistes en parlent au moment précis de la mort, où le monde se révèle comme n'existant pas. Mais disons au moment de la syncope, où il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette expérience que subitement le monde disparaît. Et pourtant, pas le soi avant de tomber en syncope. C'est clair, c'est tout bien. Et c'est important de le rappeler, parce que vous risquez d'avoir des rencontres paradoxales avec certaines formules qui parlent du monde comme s'il n'existait pas, ou il existe, sinon nous ne serions pas là à en parler. Mais il existe de bas en haut, et non pas de haut en bas. Il faut des années pour arriver à maîtriser ce principe, mais finalement, je ne vous conseille pas de tomber en syncope, mais peut-être qu'il y a là une expérience un peu éclairante. Et là, en hébreu, donc, ce terme de halal, je parle de l'hébreu biblique, ce terme de halal qui signifierait le vide absolu, vide d'être, donc même de vide. C'est le premier sens, mais va très rapidement signifier le cadavre. Et je vous énumère tous les sens de cette racine. Vous connaissez ce mot halal, halalim, le cadavre. Goufa, c'est le corps mort, mais si nous voulons le désigner en tant que il y avait la vie, il n'y a plus, mais c'est déjà le même geste, il y avait la vie, il n'y a plus, alors on dit halal, là c'est vidé. Et de présence. Ça se rattache à une racine hébraïque qui signifie troué, être trou, hol. Vous avez énormément de, d'un point de vue sémantique, énormément de termes qui tournent autour de cette racine. Mais il y a, dans le sens moral du terme, une ligne qui indique les niveaux de la profanation. Vider, trouer, priver d'eux, c'est profaner. Le premier niveau étant la maladie, le cholé, le malade, mahala. Et puis à la limite de ce vide de vie, de ce vide d'être étant le cadavre, qui désigne ceux qui étaient vivants, mais dont la vie a été reprise. J'ouvre ici une petite parenthèse. Il est possible, je crois que je l'ai signalé à un des séminaires il y a des années, il est possible peut-être de trouver là, comme pour beaucoup d'autres thèmes, avec une syncope de temps, puisque j'employais ce terme, considérable, l'origine d'un certain nombre de mystères de la théologie chrétienne. C'est-à-dire de trouver là, d'une certaine manière, l'origine en termes de Kabbalah, mais je pense que les théologiens chrétiens eux-mêmes, puisqu'ils disent autre chose en disant cela, l'ont oublié, de ce thème de la mort de Dieu comme condition du salut du monde. Ici, peut-être je touche à un problème un peu difficile, mais je pense que c'est clair. C'est-à-dire, pour que le monde existe, Dieu s'est vidé d'une certaine manière d'un point de son être. Mais il faut penser cela au niveau ontologique et pas du tout au niveau d'un mythe qui raconterait autre chose. Mais probablement du point de vue de la conviction profonde, disons de l'intuition, du sentiment profond de ce qui a dû se passer pour que le monde puisse exister, il y a là peut-être la racine de ce mystère, entre guillemets, de la théologie chrétienne. Je ne sais pas si les chrétiens qui sont dans la salle le confirmeront, si cette intuition est parallèle à ce que le chrétien veut dire, en dit, ce qui à nous, juifs, nous apparaît comme une absurdité absolue, apparemment, dans les apparents, que la mort de Dieu est nécessaire pour le salut du monde. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous, juifs, nous reconnaissons, mais je crois que cela vient de la confusion entre l'identité de l'entité Messie et de l'entité créateur qui nous sépare. Vous savez cela, c'est-à-dire que la pensée chrétienne identifie ces deux substances, alors que pour nous elles sont radicalement séparées, mais cela expliquerait un peu ce confusionnisme, disons, si confusion il y a. Mais je pense que au niveau de la pensée kabbaliste, on pourrait très facilement rendre compte de la racine des mythes, de certains mystères chrétiens, peut-être tous d'ailleurs, en particulier celui-là, de cette manière. Si vous voulez intervenir, vous le ferez tout à l'heure.
Une espèce de parallèle entre la pensée théologique chrétienne classique et la découverte de l'idéalisme en philosophie. Tout vient de la perte de conscience que nous avons d'un créateur, nous sommes essentiellement créatures. Alors, ce que vous venez de dire est extrêmement profond et intéressant, mais quand les premières philosophies idéalistes se sont demandé si le monde existait ou n'existait pas, ils mettaient tout simplement l'homme à la place de Dieu, et c'était une perspective assez parallèle, de même que quand Rabbi Nachman de Bratslav a essayé de définir l'homme, comme quelqu'un qui devait reconnaître que Dieu l'avait reconnu lui-même, n'est-ce pas, et avait été capable de le créer pour sa gloire et pour son amour, c'est au même moment que Hegel a défini l'homme comme le désir d'un désir. Il y a donc une espèce de parallèle dans un sens anthropomorphique dans chaque cas, dans les trois cas de la théologie.
Écoutez, je dirais, pour les deux premières choses, j'aurais tendance à vous suivre. Pour la citation du Rav Nachman, j'aurais énormément de réserves, d'autant plus que cette définition de l'identité de la volonté humaine comme désir d'un désir se trouve déjà dans la Gemara, c'est-à-dire plus de 1500 ans avant. Donc ce n'est pas à imputer à partir de Hegel au Rav Nachman, peut-être au moins à la Gemara, et elle a un sens un peu différent. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'idéalisme que vous avez désigné, j'ai tendance à admettre ce que vous dites, en particulier si je me souviens de ce que j'ai étudié chez Berkeley. Mais quand même, est-ce que Berkeley a vraiment confondu les deux substances à ce niveau-là, parce que sa démarche passe par plutôt d'un solipsisme que d'une confusion avec le créateur. Enfin, tout cela serait à nuancer. Simplement, je voulais indiquer le thème très général. Peut-être nous y reviendrons après, dans la deuxième partie du cours. Le thème très général que très souvent la tradition chrétienne véhicule un certain nombre de thèmes qu'elle dénomme elle-même mystères et qui ont une origine dans des intuitions hébraïques, mais, je m'excuse du terme, paganisées. D'une certaine manière, mythifié, d'une certaine manière. Et je disais cela essentiellement pour expliquer, si vous voulez, le passage de sens entre le vide et, d'autre part, la notion de profanation. Avec tous les degrés que j'indiquais, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que l'essentiel de retenir ces trois termes, chol, cholé, halal. Vous savez qu'en hébreu, la répétition de la deuxième lettre de la racine indique une sorte d'intensité du sens de la racine simple, le halal étant le chol par excellence. Or, c'est finalement le terme que, au niveau du vocabulaire des valeurs, l'hébreu se sert pour dire la profanation. Et au fond, nous avons là une définition de la profanation qui est très importante, c'est atteinte à la vie, à ce qui fait que l'être est vivant. C'est très parallèle de la notion d'impureté qui est premièrement l'impureté du cadavre. Bien, je referme cette parenthèse et pour arriver maintenant directement à cette distinction des définitions du tzimtzum suivant, qu'il s'agit du tzimtzum primordial dont le résultat est ce halal dont nous savons déjà qu'il n'existe pas mais qu'il existe quand même, enfin, on ne peut pas le dire autrement. Et, en tout cas dans un certain sens de direction, et d'autre part le tzimtzum qui mène à la possibilité de présence du haut revenu dans le halal et sans le détruire, ce halal. Donc un certain nombre de forces jouent à la périphérie. La première, nous l'avons indiqué, elle se nomme le rakia, vous vous rappelez de cela? La seconde, nous la découvrirons maintenant. Alors nous allons prendre deux termes en hébreu, qui sont de l'hébreu simple. Le premier terme, c'est hitroknout. Hitroknout, ça veut dire se vider de. Hitroknout. Comment dirait-on le substantif?
Je vous ai dit.
Évidemment. Oui. Hitroknout. Le deuxième terme, c'est itmartut ou itmaratut. C'est diminution. Vous voyez? Lorsque le tzimtzum joue dans le sens qu'emploient surtout les kabbalistes, du centre à la périphérie, c'est évidemment hitroknout. Lorsqu'il joue dans le sens plutôt talmudique de concentration, il joue dans le sens surtout d'une diminution d'intensité, et dans les deux cas, le geste que cela désigne est ensofi, ça veut dire à l'infini. La chaîne des degrés qu'il faudrait traverser pour arriver du point de départ au point d'aboutissement du geste du tzimtzum est infini, de telle sorte que, à partir de l'être, apparaisse le vide, et que la lumière se diminue de manière telle à partir de l'absolu pour pouvoir être présente dans le monde du vide, sans annuler le vide. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. Du point de vue de notre sujet, c'est très important, ça nous servira d'introduction au texte du Rav Kook. C'est que la hitroknout a pour objet d'évider l'être de tout ce qui concerne l'aspect personnel de l'être. L'être en tant que quelqu'un, il reste la nature. À tous les niveaux et les degrés des mondes que nous avons énumérés vendredi matin, que vous avez dans la phrase du Haïtzraïm que nous avons étudié, si vous voulez, je vous les rappelle, sinon vous les lisez dans le texte. Plus l'éloignement est grand, et moins le vide est grand. L'éloignement dans le sens du geste, je me suis mal expliqué. plus le fait d'éloigner la lumière est lointain, plus et moins évident. Je vais le dire de la façon inverse. Le halal joue surtout au centre et de moins en moins vers la périphérie. C'est bien clair. C'est pourquoi vous avez les mondes. Et de bas en haut, du centre à la périphérie, les mondes sont de moins en moins personnels, dans le sens inverse, de plus en plus personnels. Parce que ce qui a été évidé, c'est l'aspect personne de l'être, personnel de l'être, qu'on appelle en hébreu le « mi », le « qui ». Il reste de plus en plus de « ma », le « quoi ». Voilà, les mots sont simples, sont l'équation, une des équations fondamentales du genre, « mi » et « ma ». Les questions en deuxième. Je pense que là, vous avez une analyse, j'espère, suffisamment simple, qui explique ce processus du Tzimtzum HaKadmon, le Tzimtzum primordial, qui a pour objet de faire apparaître le vide. Pourquoi on nous parle tout de suite de mondes différents? Ce sont deux mondes différents, plus ou moins privés de l'aspect personnel de l'être. C'est-à-dire, les plus bas sont les plus nature, les plus hauts sont les moins nature, tout en étant les mondes. Tout cela, c'est le Tohu. Mais le Tohu a ses quatre qui sont cinq mondes, et qui sont de moins en moins nature par en haut, de plus en plus nature par en bas. Mais le résultat de l'évidement de ce qui est personne, qualité, volonté, ratson en hébreu, quelqu'un, le fait d'être quelqu'un, c'est nature, c'est détermination, c'est les lois de la nature. Et c'est pourquoi l'homme qui est le centre de ces univers dans ce schéma kabbaliste participe de tous ces mondes à la fois, en quoi que ce soit. Et donc, il est lui-même un récapitulé de ces différents niveaux d'être en tant que, c'est un terme employé dans toutes les traditions, que microcosme du macro. Nous avons en nous tous ces niveaux, Asiya, Yetzira, Bria, Atsilut, et plus haut pour ceux qui arrivent. Je vous dis là, très optimiste, un peu élitiste. L'immense majorité des créatures, commençant par en bas, ne sont que les mondes d'en bas, surtout, mais certaines de plus en plus haut arrivent. Donc, vous comprenez le schéma. Et n'oubliez pas le schéma d'appui. Qui importe, c'est que chacun des niveaux a dans son essence même les cinq niveaux. Il y a donc, à quelques niveaux que ce soit, plus ou moins lointainement, cette même structure de résumé de l'ensemble des mondes. Ne serait-ce que sous forme de trace, qui est un terme employé par M. de Villard, sur lequel je reviendrai, et qui est très significatif à ce sujet. Les kabbalistes du Etzraïm ont plutôt l'habitude de parler de loin et près, plus ou moins loin, plus ou moins près. La trace plus ou moins évidente, plus ou moins effacée. Mais elle est toujours là. Ça, c'est donc pour la première définition de la première dimension du Tzimtzum, c'est Itroknut. Itroknut de quoi? Et c'est surtout cela qui apparaît dans le Etzraïm, Itroknut de l'aspect mi. Il reste l'aspect ma, qui est à la limite nature, détermination, le ça, comme disent un peu les philosophes contemporains. Tous ces termes doivent être nuancés et réadaptés, mais simplement pour éclairer le problème en français. Alors que la hitma a toute la dilution, diminution de présence, concerne précisément, c'est un tzimtzum qui va concerner le rayon de lumière qui revient dans le halal et qui infiniment, de façon ensophite, sera betzimtzum, diminué jusqu'à ce que sa présence ne soit pas dévastatrice pour les mondes. Voilà, je crois que nous avons là un schéma simple et assez essentiel. Et je crois, là encore, je veux me référer à une expression de M. Levinas, mais pour l'utiliser dans sa source du vocabulaire kabbaliste et non pas philosophique. Cette lumière, ce n'est pas tellement le regard qui sort des yeux, et on aurait tendance un peu à le dire, c'est ce qu'il y a sur le visage. Et nous allons retrouver dans le texte du Rav Kook ce que la tradition appelle la shrina, la présence. Okay. Est-ce que c'est clair? Nous allons faire une petite interruption s'il y a des questions. Et je crois que ça suffit pour qu'on puisse commencer à lire le texte du Rav Kook déjà aujourd'hui. Donc, vous avez la parole.
Cette lumière dont vous parlez, est-ce qu'on peut la rapprocher de la lumière qui envahissait le visage de Moshe lorsqu'il descendait du Sinaï?
Bien entendu. Étant donné que Moïse était un homme plus intensément